εγώ λέγομαι Αντώνης Μπρέσκας, είμαι γεωπόνος και δουλεύω στο Πελίτη, που είναι μια ομάδα που ασχολείται κυρίως με τη διατήρηση, τη διάσωση και τη συλλογή των ντόπιων ποικιλιών.
Donc, moi c'est Adonis Bresca, je suis ingénieur agronome et je travaille pour le groupe Pelliti, qui est un groupe d'échange et de conservation de semences locales. Et donc moi c'est Roxane Montrayas et je travaille en France dans le mouvement paysan. Et je suis par ailleurs l'actualité agricole et environnementale grecque.
Si tu peux expliquer un peu la situation, le contexte actuel pour l'agriculture et dans les campagnes en Grèce, si vous pouvez expliquer, parce que vous avez peut-être tous les deux des choses à en dire, un peu voilà le contexte en ce moment avec la crise, de la situation à la campagne et pour l'agriculture, l'agro-industrie, voilà, un peu donner quelques points de contexte global.
Εντάξει, τώρα καταρχήν εγώ ήθελα να πω ότι δεν είμαι ειδικός, απλά έχω μια άποψη για το θέμα, που είναι δικιά μου, δεν είναι ότι έχω ασχοληθεί, είναι αυτά που βλέπουμε από όσο ενημερώνομαι εγώ και μέσα από τη δουλειά εδώ πέρα που κάνουμε.
Donc il dit qu'il n'est pas, Adonis n'est pas expert, donc c'est son point de vue d'après le boulot qu'il fait et à travers l'information, donc enfin, les informations qu'il voit, etc.
Οπότε εντάξει, εγώ η εικόνα που υπάρχει στον ύπαιθρο μέχρι τώρα, ας μην πούμε για την κρίση, είναι ότι είχε μειωθεί πάρα πολύ. Είχε μειωθεί πάρα πολύ.
Donc l'image qu'on a de la campagne, enfin du monde rural en Grèce, c'est deux choses. C'est la baisse de la population agricole et une population agricole qui est assez âgée en fait. Donc l'image globale, c'est quand même la monoculture avec donc peu de monde qui travaillait en monoculture et de l'autre côté aussi très peu de monde qui s'investissait dans l'agriculture biologique, les formes d'agriculture alternative. Donc la grosse différence par rapport à la France, c'est que le foncier est très petit par rapport à ce qui existe en France. Chaque agriculteur possède très peu d'hectares. Dans le contexte de la crise, la réponse donc du ministère ne va pas du tout dans le sens d'une souveraineté alimentaire, mais plus dans le sens d'une promotion de cultures absurdes pour la réalité grecque, comme le goji berry, qui est un fruit rouge donc asiatique qui vient de Chine, ou la myrtille, et aussi une plante bouloire, enfin une plante de la Grèce antique que Alexandre le Grand était supposé donner à ses chevaux, et ça c'est devenu très à la mode. La culture de cette plante est devenue très à la mode. On voit bien que toutes ces productions sont destinées à l'export, majoritairement l'export pour l'Allemagne. Donc c'est autant de cultures qui ne sont pas destinées à nourrir le pays, les territoires. Et de l'autre côté, on voit que l'industrie agroalimentaire souffre à peu près du même processus, puisque autant les cultures de sucre et de tabac, qui étaient des cultures importantes, notamment le tabac, des cultures importantes en Grèce, ont été délocalisées vers la Turquie et la Bulgarie, ce qui engendre évidemment une perte d'emploi dans cette industrie agroalimentaire.
Dans ce contexte, on entend parler, avec la crise en Grèce et ailleurs, de personnes qui retourneraient à la terre, entre guillemets, quoi, d'essayer de retrouver de l'autonomie à la campagne pour faire face à la situation économique très très compliquée. Est-ce qu'il y a des infos un peu plus précises là-dessus, sur l'ampleur de ce phénomène, sur la réalité de ce phénomène, s'il y a vraiment possibilité d'accéder à la terre, etc.
Γενικά, νομίζω ότι θα έπρεπε να εξηγήσουμε λίγο εδώ πέρα ότι ακόμα στην Ελλάδα υπάρχει μια επαφή με την επαρχία. Δηλαδή, παρότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μένει στις πόλεις, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το μισό σπίτι, τα 5 εκατομμύρια.
D'abord, ce qu'il faut dire sur la Grèce, c'est que il y a un vrai contact avec la campagne qui existe, malgré le fait que 50% de la population habite à Athènes, donc en ville. Et ce contact a des raisons historiques, a une explication historique, qui est que souvent c'est les parents dans les années 60, donc 50, 60, 70, qui ont quitté le village pour venir en Grèce, c'est l'époque de l'exode rural. Donc ils restent encore au village, souvent une grand-mère, en tout cas une maison familiale, qui assure ce lien entre ville-campagne. Il y a une tendance de retour à la terre, mais ce retour à la terre a d'abord concerné, avant cette période de crise très intense, donc les gens qui ont discuté depuis longtemps et qui étaient dans ce lien qu'on a expliqué tout à l'heure entre ville et campagne de par la famille, et qui avaient donc un petit champ à cultiver ou un potager qui existait déjà et qui ont fait le pas à cause du chômage qui existe maintenant, qui est très important en ville, et celui-ci combiné au coût de la vie qui est très important maintenant en Grèce. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de souligner l'existence d'un certain nombre de projets d'occupation de terre ou bien d'usage de terre qui étaient avant des espaces publics, qui sont donc réappropriés par les gens en ville pour cultiver des légumes, etc., notamment dans le périurbain, donc autour des deux grandes villes principales, Athènes et Thessalonique. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a par exemple 5 perca, ça s'appelle, c'est des essais de culture en périurbain, et ça c'est le nom qui a été donné. Par exemple, une occupation d'un terrain militaire à Thessalonique, ou bien une autre occupation de terre appartenant à l'université, toujours à Thessalonique, ou bien on peut citer un parc qui était auparavant déjà exploité, en fait, cultivé en fait à Athènes, mais qui continue à être cultivé et de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité si on veut, donc que ça soit intensif, qui s'appelle Arroche et qui est dans le parc Tritsi à Athènes. Un autre phénomène qu'on peut mentionner, c'est la culture de plus en plus massive sur les balcons. Et ça concerne évidemment les gens qui sont en ville et qui ne peuvent pas accéder, qui n'ont pas un accès direct à des terres d'occupation, comme on a cité précédemment. Donc ça, c'est quelques exemples, mais Adonis nous dit qu'il entend parler tout le temps de nouveaux projets qui sont en train de se monter, et ça, c'est très positif. Donc, une autre chose qu'on peut mentionner, c'est l'essai de rapprochement entre des groupes de producteurs et de consommateurs. Donc, il s'agit de vente directe, donc d'avoir accès à un certain nombre de produits sans intermédiaire, ce qui en Grèce est relativement nouveau, parce que il n'y a pas d'expérience équivalente comme il y a en France par rapport, par exemple, aux AMAP. Donc par rapport à la question de la vente directe, on peut évidemment parler du mouvement des patates, qui a été un mouvement de vente directe entre producteurs et consommateurs très massif, mais il y en a d'autres comme celui de Agronaftes, qui cherche des consommateurs qui en fait se charge de chercher des consommateurs. Donc Arlo Marte, c'est un groupe de producteurs qui a créé un site et qui essaye de trouver des consommateurs donc, pour vendre les produits afin de partager donc le risque. Donc il y a une autre initiative qui s'appelle Deviens paysan et qui consiste sur un site internet, toi en tant que consommateur, tu visualises les différents espaces, champs qui sont cultivés par des agriculteurs et tu t'inscris et du coup tu t'engages à recevoir des paniers sur une base hebdomadaire chez toi qui sont préparés par les agriculteurs qui sont présentés sur le site. Donc en gros tu choisis un territoire tu reçois le panier à la maison, donc ça ressemble quand même beaucoup à une AMAP, voilà, mais sans le côté livraison à un endroit donné à un collectif. C'est quand même une livraison assez à la maison ou sur son lieu de travail. Et l'autre point, c'est la question des marchés de plein air. Ces marchés de plein air existent depuis longtemps, évidemment, mais il n'y avait pas de conscience auprès des producteurs que, dans certains cas, il s'agissait de vente directe. Si tu posais la question à un consommateur de « est-ce que au marché de plein air, tu as accès à un produit en vente directe », il t'aurait dit non, donc il n'y avait pas de conscience de ça. Et en plus, que beaucoup d'agriculteurs, en particulier bio, ont des problèmes d'accès à ces marchés de plein air. Il y a effectivement des problèmes d'accès économique pour les agriculteurs au marché de plein air, parce que pour les revendeurs, de par l'économie d'échelle, le prix d'accès au marché est beaucoup plus faible, et donc ça lui revient beaucoup moins cher. Et en plus, il y a une concurrence souvent difficile à mener pour les producteurs par rapport aux revendeurs. Donc une des revendications, c'est d'avoir des marchés de plein air de producteurs.
Thank you.
Sur le mouvement des patates, mais aussi sur les autres systèmes de vente directe. Si tu as un peu d'autres. Si tu peux en dire un peu plus sur comment c'est arrivé, et puis aussi, est-ce que nous en France, il y a un peu cette vision que ces mouvements de vente directe, de lien producteur-consommateur, c'est souvent une certaine catégorie de population pour les consommateurs. Est-ce que c'est le cas? Comment ça s'est un peu passé plus précisément, quoi?
Ναι, τώρα το κίνημα της πατάτας ξεκίνησε πέρσι, επειδή είχε πέσει πάρα πολύ τιμή και ξεκίνησε μια περιοχή της Ελλάδας που ήταν πατατοπαραγωγική, στον Ευρωκόπη, είχε πέσει πάρα πολύ τιμή κάτω από το κόστος παραγωγής από τους εμπόρους, και διαμαρτυρήθηκαν σε μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη οι καλλιεργητές γι' αυτό και ακούσαν κάποιοι καταναλωτές τέλος πάντων για αυτό το ποινικό. Ήρθαν σε επαφή με τους καλλιεργητές και τους δώσαν μια καλύτερη τιμή από αυτή που δίνανε οι εμπόροι.
Donc sur le mouvement des patates, en fait tout a commencé l'année dernière parce que le coût, enfin le prix donné par les intermédiaires était extrêmement bas et ne couvrait même pas les coûts de production des producteurs de patates grecques. Donc tout ça a commencé dans un territoire de production de patates. Et donc ces producteurs de pommes de terre se sont plaints lors d'une exposition agricole, ce qui a été médiatisé et a donné l'idée donc à des groupes de consommateurs de contacter les producteurs directement pour leur donner un meilleur prix de vente que celui proposé par les intermédiaires. La commande qui a été faite par ce groupe de producteurs à Katerini, qui est une ville proche de Thessalonique, a été très massive, a rencontré un très grand succès, donc la commande de pommes de terre au départ. Ils ont été donc obligés de faire une deuxième commande de pommes de terre Et la médiatisation de ce phénomène et le succès a fait que d'autres villes et d'autres groupes de consommateurs se sont montés pour faire des commandes de pommes de terre au début, puis majoritairement de riz, de pommes de, donc encore de pommes de terre et d'huile, mais également dans une moindre mesure d'autres produits comme de haricots blancs ou même des produits frais plus tard. Les supermarchés ont été un peu inquiets et par rapport à l'accès à cette vente directe, ce qui est sûr, c'est que les produits ont un très bon prix par rapport à ce qui est proposé par les supermarchés et donc ce qui permet un accès à tous en fait. Donc ce mouvement de vente directe est au stade où il y a réellement un essai de mise en réseau, de créer un réseau donc, national de toutes ces expériences de vente directe. Et la première réunion a eu lieu en septembre. Les problèmes que souligne Adon par rapport à cette coordination des mouvements de vente directe sans intermédiaire en Grèce, c'est que les consommateurs sont extrêmement axés sur la question du prix et ne sont pas suffisamment préoccupés de la qualité de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils demandent. Et donc les échos qu'il a eu auprès de certains producteurs sont qu'ils ne sont pas satisfaits des conclusions de cette réunion, car il y a un discours qui domine auprès des consommateurs qui est soyez patients, baissez les prix pendant 2 ans afin qu'on puisse survivre. Mais ceci n'est pas satisfaisant parce que la vente directe, c'est une manière de s'organiser afin de soutenir aussi bien les consommateurs que les producteurs. Peut-être que ça s'est passé de cette manière par manque d'expérience de part et d'autre. Deux choses pour conclure sur ce point, que d'une part, tous ces mouvements, ces essais, ces expériences sont extrêmement positifs, qu'il y a 2 ans, ça aurait semblé complètement improbable de parler de vente directe aussi massivement, de retour à la terre, malgré le fait qu'il s'agit quand même globalement d'expériences et de mobilisation de la société pour sa survie, donc il y a un aspect un peu tactique dans ça, mais qui malgré tout crée une expérience différente de ce qui existait précédemment. Donc un point très positif, mais à nuancer par quelque chose d'extrêmement préoccupant dans tous ces mouvements de vente directe de culture de la terre, y compris de souveraineté alimentaire. Il y a clairement une tendance nationaliste, voire raciste, de certaines personnes qui s'engagent là-dedans autour de la notion du produit grec. Et évidemment, c'est très préoccupant.
Oui, j'allais justement vous demander ça par rapport à tous ces mouvements. Vu qu'on entend parler beaucoup de la montée du fascisme, notamment en ville, en Grèce, quelle position avaient ces mouvements-là par rapport aux questions de retour à la terre, de vente directe, etc. Est-ce qu'il y avait une tentative de récupération ou est-ce qu'ils voyaient ça comme des ennemis? Mais du coup, il y aurait plutôt quand même une tentative de récupération, entre guillemets, et d'implication de ces mouvements nationalistes ou fascistes dans... sur ces questions agricoles, quoi.
Απλά αυτοί καλλιεργούν κάποια κτήματα στην Λάρισα και καλλιεργούν και όλο αυτό το ΖΕΑ που υποτίθεται ότι είναι το ελληνικό στάρι και... Έχεις ακούσει καθόλου για το ΖΕΑ?
Όχι.
Ωραία, μην το αναπτύξουμε τώρα.
Εντάξει,
γιατί είναι αρκετά περίεργο. Ε, πάντων, υπάρχουν κάποιες κινήσεις και τόσο ονομαστά, δηλαδή ότι είναι η πατριωτική κίνηση, είτε η Χρυσή Αυγή, οι οποίοι υποστηρίζουν κάποιους κήπους ή υποστηρίζουν κάποια project αντίστοιχα. Αλλά υπάρχουν και. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον, αλλά με την προσέγγιση τη δικιά τους, ότι. Πάλι με το κομμάτι ας πούμε, της διατροφικής, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ότι μια αυτονομία και μια αυτάρκεια στο φαγητό μας από τη δικιά τους την οπτική. Απλά αυτό είναι εντάξει το ξεκάθαρο κομμάτι και το εύκολο. Το δύσκολο είναι όταν υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτά τα project. Δηλαδή, εγώ αυτό το κίνημα των καταναλωτών της πατάτας δεν ξέρω καθόλου ποιοι είναι μέσα και ποιοι ασχολούνται.
La question de l'implication de l'Aube dorée en particulier et d'un milieu un peu d'extrême droite patriotique, fasciste dans les questions agricoles est une question un peu nouvelle. En tout cas, il y a effectivement des situations où des champs, des expériences de culture sont soutenues par un groupe qui s'appelle Front Patriotique. Donc il y a des situations mais qu'on ne connaît pas avec beaucoup de clarté, de soutien direct ou d'implication de ces milieux-là dans les questions agricoles. Ceci étant, ce que dit Adonis, c'est que très compliqué, c'est comment tu discutes, comment tu fais, comment tu travailles avec les gens épars qui sont un peu touchés par cette idéologie quand tu travailles sur les questions de biodiversité ou de souveraineté alimentaire. Pour Adonis, il faut absolument mettre aussi une limite sur la question des idées racistes et fascistes et ne pas travailler avec les personnes qui portent ça, même s'ils ne sont pas organisés. Par ailleurs, il faut dire qu'il y a une tradition, il y a des choses qui existaient depuis toujours, de mouvements qui combinaient une approche un peu nature avec des questions nationalistes. Enfin, ça existe depuis longtemps, en fait.
Juste un point, on n'a pas parlé de Pelliti. Je sais pas si vous considérez que c'est aussi dans ce mouvement général de retrouver de l'autonomie, mais je pense que ça mériterait d'en parler peut-être plus longtemps. Du coup, d'en parler spécifiquement et de recontextualiser ça dans tous les mouvements qui existent autour des semences en Europe et ailleurs. Mais peut-être juste un petit mot sur Pelliti, vraiment en deux mots, si voilà ce que c'est, si ça s'inscrit un peu dans ce mouvement général de retrouver du lien à la terre et à l'agriculture.
Το Pelliti ασχολείται με το θέμα πολύ πριν από την κρίση, δηλαδή δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η στάση του, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο το έθετε από πριν. Δηλαδή ήταν τόσο όσον αφορά την διατήρηση των τοπικών ποικιλίων, των παραδοσιακών ποικιλίων, όσο και του να κινηθούμε προς μια διατροφική αυτάρκεια και μια αυτονομία όσον αφορά το φαγητό μας. Δηλαδή να καλλιεργήσει ο καθένας το φαγητό του, την τροφή του, να παράξει ό,τι μπορεί να. Ό,τι περισσότερο μπορεί μόνος του. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το τι κάνει το Pelliti, όσο το ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον πολύ πολύ.
Pelliti, en fait, travaille, se mobilise sur ces questions-là depuis bien avant la période de crise que traverse la Grèce. Donc, en fait, sa position n'a pas trop changé en ce qui concerne la conservation des variétés traditionnelles, l'importance de cette conservation, mais aussi le besoin d'aller vers une souveraineté alimentaire, de pouvoir cultiver son jardin ou de produire son alimentation. Ce qui a véritablement changé, c'est l'intérêt, les demandes pour François Pelliti qui ont énormément augmenté. aussi bien du point de vue des semences, des demandes en semences, mais également par rapport aux séminaires que Pelletti peut organiser sur la fabrication du pain, du savon, du fromage, qui rencontrent un intérêt vraiment très important. Cet intérêt est lié aussi bien à un besoin de matériel pour de semences en l'occurrence ou de savoir-faire pour pouvoir cultiver et produire, mais aussi bien d'un mouvement plus profond politique de besoin de prise de conscience sur le besoin de préserver les variétés dans un esprit du type il faut qu'on préserve nos variétés, c'est elles qui vont nous sauver, il ne faut pas qu'ils nous prennent ça aussi.
Avant de conclure, même si c'est pas forcément évident, mais d'avoir peut-être un peu pour conclusion de quelques perspectives par rapport à ça. Par exemple, les mouvements d'occupation de terres périurbains, est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'ils se font virer rapidement? Un peu au niveau des perspectives, est-ce que tu disais que c'était quand même plutôt positif, toutes ces expériences? Mais plus sur les mois à venir, est-ce que ça a l'air quand même de tenir le coup et de se développer? Voilà, hein, c'était un petit peu ça l'idée pour conclure.
Εντάξει, τώρα στοιχεία δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Περισσότερο την αίσθηση τη δικιά μου μπορώ να μεταφέρω. Ότι καταρχήν φαίνονται κάποια στοιχεία, κάποια εγχειρήματα φαίνονται πολύ δυνατά και ότι μεγαλώνουν συνέχεια. Οπότε υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Και κυρίως αναφέρομαι τώρα στην Μπέρκα. Απλά και μόνο επειδή έχω περισσότερη επαφή με τα άτομα που δουλεύουν εκεί, που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Και γενικά ότι από την τάση, από αυτό που φαίνεται, ας πούμε, που συνέχεια μεγαλώνει, από την τάση που έχει αυτό το κίνημα έτσι, της ενασχόλησης με τη γη, της επιστροφής στη φύση, που έχει την τάση να μεγαλώνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια.
Donc, pour conclure, dans son livre, plutôt sa sensation, son sentiment, n'a pas d'éléments précis par rapport aux perspectives de tout ça. Donc, ce qu'il peut dire, c'est qu'il y a des expériences qui sont très fortes, hein, comme celle de Pelka, donc d'occupation en périurbain de terre, qui se développent très fortement et qui s'agrandissent. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement positives et y compris pour les personnes qui font ce pas de cultiver non par choix mais par le besoin de survivre, il s'agit quand même d'une expérience très importante de planter sa semence par exemple parce que ces personnes-là acquièrent quand même un lien avec ce qu'ils mangent, une certaine autonomie qui va leur être utile, y compris s'ils sont amenés à retourner en ville si la situation s'améliore. Un petit bémol juste à ces perspectives plutôt optimistes, la question le problème du fascisme et l'implication de personnes de ce type dans ces milieux est très importante. Il faut absolument trouver les moyens pour les laisser dehors, les mettre dehors de tous ces mouvements-là, ou au pire, savoir qui ils sont et comment ils agissent.